Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Nicolas Voller et Cécile Brelot.
Figaro Radio.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Mag. Nous sommes en direct sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va Cécile?
Très bien, Nicolas.
En forme. Aujourd'hui, on accueille dans ce studio un visage qui égaye ou pas vos journées. Ça dépend à la météo de France Télévisions. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps, même si c'est qualificatif, il faut le savoir, non plus court aujourd'hui. Hein. Grâce à elle, on peut désormais se réjouir d'un temps pluvieux ou râler sous un beau soleil. C'est ça le double effet du journal Météo Climat. Bonjour Anaïs Baïdémir.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir. Vous êtes la présentatrice du journal Météo Climat sur France 2, France 3, France.tv. C'est une innovation qui avait été lancée il y a tout juste un an. On fête l'anniversaire par France Télé avec un objectif très affirmé, informer les téléspectateurs des conséquences immédiates hein, sur leur vie de tous les jours, du changement climatique. C'est vous qui avez fait la toute première d'ailleurs, hein, donc bon anniversaire.
Merci.
Est-ce que un an après, ce bébé a bien grandi et on peut dire que l'objectif est atteint, Anaïs?
Alors oui, il est atteint. On est très satisfait de la réaction des téléspectateurs qui sont restés fidèles et convaincus par le nouveau projet qu'on a mis en place il y a un an.
On est donc parti pour quelques longues années du journal Météo Climat.
Ouais. On fêtera les 10 ans ensemble d'ailleurs.
Oui, pas de souci, on peut déjà prendre rendez-vous là-dessus. Il y avait un petit doute, un petit scepticisme, ou est-ce que, au contraire, en tant que présentatrice Météo, vous étiez déjà très impliquée là-dedans? Et c'était une vraie demande que vous aviez fait auprès
de effectivement, il y avait on peut dire qu'il y avait un doute, parce que c'est un programme qui fonctionne énormément, la météo, que ce soit sur toutes les chaînes.
Bien sûr, oui.
Alors sur France Télévisions particulièrement, parce qu'on faisait déjà beaucoup d'audience, de 3 à 5 millions facilement tous les soirs. Donc c'est un risque de changer un programme qui fonctionne.
De le rallonger en tout cas, comme c'était
le cas. De le rallonger, d'aborder un sujet qui est clivant également. Donc c'est vrai qu'on a eu une appréhension. Le France Télé a pris le risque de changer ce programme qui fonctionnait énormément. Et on a été surpris et encouragés et satisfaits.
Agréablement surpris, oui.
Voilà, de voir que les téléspectateurs sont restés fidèles et convaincus par ce nouveau programme qui leur apporte ce qu'on a essayé de faire le plus possible, d'être le moins anxiogène possible. Donc du coup, le rendez-vous est pris et on a de plus en plus de téléspectateurs en prime depuis un an.
Et on va en parler évidemment de ce rendez-vous pour les quelques rares qui l'auraient raté depuis un an. On va tout savoir sur la météo, sur le climat. Ce sera après les news médias de Cécile Brelot. Et on débute ces news médias, Cécile, avec une triste nouvelle, le décès de l'animateur Sylvain Ogier.
L'ex-animateur de Faut pas rêver et la carte au trésor sur France 3, c'était un samedi dernier à son domicile de Sommières dans le Gard, à l'âge de 68 ans. L'automne dernier, l'homme de la télévision avait levé le voile sur sa bipolarité, diagnostiquée dans les années 90 dans un livre intitulé « Je reviens de loin ». Dans une archive, Sylvain Ogier confiait à Thierry Ardisson qu'il aimerait qu'on écrive sur sa tombe « Il nous a beaucoup fait rêver ».
Ouais, c'est très joli, ouais. Est-ce que Sylvain Ogier, pour vous, c'était un peu avant-gardiste? C'est vrai que Faut pas rêver, c'était un peu une ode aux régions françaises. Hein. À l'époque, c'est sorti au tout début des années 90, ça fait plus de 30 ans.
Ah ouais, moi, c'est toute mon enfance. Alors, dès que j'ai entendu ce nom-là...
Hier,
ça m'a fait mal. Parce que France Télévisions, c'est un peu ma famille. Et j'ai l'impression d'avoir grandi avec Sylvain Ogier. Donc, du coup, là, je suis un peu triste. Mmh. Et en même temps... Bah, il nous a fait rêver comme il fallait. Hein.
Ouais.
Merci encore à lui.
Et c'est vrai que c'était un peu avant-gardiste. On voit aujourd'hui partout dans les JT hein, ce recentrage sur les régions, etc. Et alors qu'il y a aussi beaucoup d'émissions d'évasion à des milliers de kilomètres, mais ce recentrage-là, il était important.
Oui, parce qu'on sait en tant que journaliste que ce qui nous touche le plus, c'est quand même quand on touche à notre région, on a envie de la connaître, on ne la connaît pas tant que ça.
Non,
donc c'est vrai. Que de s'intéresser à des microclimats, par exemple, pour nous, bah, on apprend toujours beaucoup de choses. Donc, s'intéresser à notre pays, c'est encore plus valorisant et ça nous fait plaisir.
On continue ces news médias, Cécile, avec M6 hein, qui se relance dans le talk show, un genre qui n'existait plus depuis plus de 10 ans sur l'antenne.
Exactement. Donc, je cite, il fallait un bon producteur et une bonne incarnation. Donc, c'est les mots du directeur général adjoint des programmes du groupe. Donc, dans la famille bon producteur, je demande Régis Lamanna-Roda, à qui l'on doit à quelle époque sur France 2. Et dans la famille incarnation M6, je demande Ophélie Meunier, qui va prendre les rênes de La Grande Semaine. Donc, chaque samedi dès 17h45, la présentatrice sera entourée d'une grande bande pour 90 minutes d'émission d'actualité dans la bonne humeur. On retrouvera à ses côtés Enora Malagré, Philippe Manœuvre, Chicandier, Anne-Sophie Girard ou encore Baptiste Desmontiers. Donc c'est un programme qui sera ponctué aussi de pastilles humoristiques, lancement le 6 avril prochain.
Peut-être que le succès de Quelle Époque a donné des idées à M6. Il y a Bel et Bien, il y a Bonjour, La Matinale, Le Brousse, tout ça, beaucoup d'émissions en bande, vous connaissez, vous avez présenté aussi dans Télématin la météo ou les matériels. Est-ce que c'est ce genre d'émission, c'est quelque chose qui vous plairait, Anaïs, dans le futur, l'émission de bande, de faire partie d'une bande ou de la diriger d'ailleurs, hein,
Oui, pourquoi pas. Très...
Allez-y, France Télé, vous écoute. Vous pouvez faire des bandes directement.
Parce que c'est vrai que le matin ou le soir, on aime bien ce côté un peu familial. Bon, c'est plus... c'est vraiment des émissions qu'on connaît maintenant, les matinales. Mais d'avoir cette impression de faire partie d'une famille où les gens s'entendent bien et qui en plus nous informe avec le sourire, ça fait toujours plaisir. Ça nous booste pour la journée ou ça nous calme le soir quand on rentre et on a les dernières infos, mais avec la bonne humeur en fait.
Parce que c'est vrai que la météo, c'est très solitaire à l'antenne, même si vous travaillez en équipe.
Oui.
Mais c'est très solitaire en présentation.
Oui, mais en même temps, on a l'impression que tous les jours, on a une bande qui est avec nous, avec laquelle on travaille. Moi, j'ai pour principe de toujours les faire rire un petit peu avant, ouais, pour voir s'ils sont soudés, s'ils sont bien là, ils sont réactifs. Et donc, du coup, on a ce petit cocon familial qui nous appartient pendant une demi-heure, le temps de l'enregistrement. Et du coup, ça se passe plutôt bien. Et du coup, on peut également offrir notre sourire, notre bienveillance, notre gentillesse à l'antenne. Donc, ça se ressent, ça, en fait.
Surtout le matin, oui. Et donc, l'ambiance est vraiment bonne. Alors, vous confirmez, hein ?
Oui.
Il n'y a pas de souci. Ça bien dépend sûr. Des matins si on est bien réveillé.
C'est comme la famille, des fois on se réveille mal, des fois on s'entend pas avec. C'est normal, famille. Mais le but étant de. On a quand même cette chance de faire des métiers qu'on adore, donc il ne faut pas l'oublier. Donc le pouvoir donner notre gentillesse et notre bonne humeur, c'est une bonne chose. Il faut oublier tous nos problèmes, arriver à la porte de cette émission.
Les bons et les mauvais côtés de la famille. Il y en a partout, c'est comme ça. On termine ces news, Cécile, avec le chiffre du jour, le 2 aujourd'hui.
Oui, pour France 2, qui a fait un flop en prime time. La chaîne a diffusé un numéro de France grand format, incarné par Marie Drucker. Donc un sujet consacré à l'immobilier et le logement, qui n'a seulement intéressé 1,3 million de téléspectateurs, ce qui représente 7,2% de part d'audience.
C'est très faible. Hein,
exactement, la 2 se range donc derrière France 3, avec une rediffusion de la fiction Alex Hugo, Koh-Lanta sur TF1 et un prime de Scène de ménage sur M6.
Alors évidemment, c'est un score très faible, mais il y a certaines chaînes du service, certaines émissions qui ne trouvent pas leur public, comme celle d'Hugo Clément, notamment sur Nos grandes décisions. Est-ce que parfois c'est un problème de grille de programme qui est trop décalé, ou c'est aussi une question de service public qui doit certaines émissions à ses téléspectateurs, la crise d'immobilier, etc., et qui forcément ne font pas de l'audience en prime time. C'est compliqué, non ?
Alors,
avec ce type d'émission.
Effectivement, est-ce que c'est pas l'horaire ? Est-ce que c'est pas un soir de semaine où on a besoin de se relaxer ?
Crise d'immobilier, mardi soir, c'est dur, ouais.
Tout peut être remis en question. Après, je pense que Hugo Clément a quand même il réagit plutôt bien et il peut se tenir une émission en prime très facilement. Mais je pense que l'horaire a peut-être posé problème. Voilà, le mardi soir, quand on était plus jeune, c'était mardi soir, tout est permis.
Ou les films, souvent.
Voilà.
Ouais, les
films. Donc les gens ont peut-être besoin un peu plus de se décontracter, de penser à autre chose un mardi soir que ce genre d'émission, peut-être.
Est-ce que, alors vous, c'est pas votre problème, parce que vous cartonnez en audience avec la météo, vous l'avez dit tout à l'heure, Anaïs.
J'ai choisi le bon...
Oui, voilà, vous avez choisi le bon créneau, effectivement, comme sur TF1 ou France 2, France 3, ça cartonne. Est-ce que c'est aussi un choix du service public et peut-être même un privilège de pouvoir faire ces émissions sans forcément miser sur l'audience, notamment avec le cahier des charges qu'ils ont auprès du CSA pour faire certains types d'émissions que ne feraient pas des chaînes privées? Vous pouvez le faire sur le service public, ce genre d'émission.
Oui, il faut le faire, parce que c'est une grande demande du public. Il faut le faire, il faut prendre des risques. Alors, est-ce qu'il faut toujours regarder l'audience ou il faut faire le job? C'est ça, le truc.
Quand ça marche, France Télé est content, puis quand ça marche pas, ils disent que c'est service public de toute façon.
Et qu'on est obligé de le faire,
voilà,
il faut bien
exactement.
De le faire. Il faut prendre, je pense qu'on est une chaîne où on doit prendre des risques, qu'on fasse ou pas d'audience, il faut le faire. Et France Télé essaye de nouveaux projets régulièrement, et puis bien sûr que ça peut ne pas plaire à tout le monde, et certains téléspectateurs sont peut-être pas au rendez-vous ce jour-là.
Oui, il y a des risques effectivement qui sont pris. Le journal Météo Climat, c'est le nom complet, hein, désormais des bulletins météo que vous présentez en alternance avec Julia Martin, il y a Valérie Maurice, Frédéric Vion, Myriam Seras, Sébastien Thomas, c'est diffusé avant les JT sur France 2 le soir, le 13h aussi.
Avant et après le JT de 13h à 20h, comment
ça se passe entre vous six, le turnover, les agendas sont bien remplis, bien réglés, parce que j'imagine que ça va être très, ça va tourner beaucoup.
En priorité, donc avec Sébastien Thomas, nous sommes sur France 2, ouais. nous relayons, et sur France 3, vous avez Julien Martin et Myriam Seurat, et le matin, vous avez Valérie Maurice et Frédéric Vion. Donc voilà, ça fait vraiment, on a chacun nos créneaux qu'on tient, et puis de temps en temps, bien sûr, s'il faut se remplacer,
les vacances
on est là.
On est là pour travailler, on est là pour
faire le job.
Dans ce bulletin, on trouve évidemment donc les prévisions classiques, mais surtout une séquence de 5 minutes dédiée au climat. Que trouve-t-on dans cette séquence ?
Celle qui a tout changé depuis un an.
Je pensais qu'il allait arriver.
Pour ceux qui n'ont pas vu depuis un an, on va dire, voilà, il y a des images.
Ont besoin un peu de savoir le contenu, voilà, si vous voulez nous
visualiser. Qui veulent venir vous voir, qui ne connaissent pas encore.
Alors, bien sûr, le soir, donc à 20h40, nous avons une formule spéciale du journal Météo-Climat. Donc, on a toujours notre partie météo où on informe au niveau des vigilances, au niveau de la météo du lendemain et des jours suivants. Et après, nous avons la partie climat. Donc, ça dépend des soirs. Donc, on suit beaucoup l'actualité, donc on a mis en place depuis un an un OVR où le téléspectateur peut nous poser des questions, donc on a un QR code, il nous pose directement ses questions, on part sur des reportages, on peut faire des graphiques, on a des experts qui sont là pour répondre aux questions que les téléspectateurs se posent le plus souvent, et bien sûr on essaie d'être à la pointe de l'actualité par rapport au sujet qui les préoccupe dernièrement.
Est-ce que cette mise en contexte, on va dire, climatique, elle était devenue indispensable à vos yeux ? Il y a eu un point de bascule, en fait, pour contextualiser cette météo dans un contexte, évidemment, plus large, celui du changement climatique ?
Alors, l'année dernière, je disais 17 ans. Maintenant, je dis 18 ans de météo. On voit que là, ces 5 dernières années, il y a des choses qui se sont accélérées. On voit que la population est prête à recevoir également les histoires de climatologie. Jusqu'à présent, moi, on m'avait toujours dit dans mon cursus qu'on ne mélangeait pas climat et météo. Sauf que là, c'est devenu indispensable ces 5 dernières années. Nous, on a été là pendant l'hiver et l'été et on battait des records qui étaient battus la veille, qui étaient rebattus sur
année après année, en plus.
Année après année, jour par jour, on battait des records mensuels, journaliers, ça ne s'arrêtait pas. Donc à un moment donné, il fallait qu'on mette en place le climat. Le climat, c'est une histoire. La météo, c'est un épisode. Il faut qu'on remette en fait la météo dans un contexte de climat qui se réchauffe. Donc on peut plus prendre à la légère un sujet qui était léger avant, qui était la météo. On peut plus le prendre à la légère aujourd'hui. Ça crée des catastrophes dans le monde. Les phénomènes sont de plus en plus violents.
Et les gens le voient au quotidien avec les canicules, notamment de plus en plus nombreuses.
Et tous les phénomènes qui sont de plus en plus catastrophiques. Et plus on sait pourquoi ça arrive, plus on comprend le phénomène et plus on l'appréhende de façon un peu plus sereine.
Voilà. On parlait des audiences toujours records et fortes de la météo. Est-ce que ça, depuis que vous avez fait cette météo-climat, est-ce que ça implique une responsabilité ? Est-ce que vous sentez une sorte de pression ? Est-ce que vous la ressentez, vous, en tant que présentatrice de cette météo-climat ?
Alors, pression, non, on a toujours été journaliste, donc on a toujours eu ce côté où on recoupait les informations qu'on retrouvait un peu partout. Sauf que c'est vrai que le climat, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est vraiment des chiffres, c'est des données, c'est regrouper beaucoup plus d'infos, donc ça demande beaucoup plus de travail. Et d'ailleurs, maintenant, ce qui a changé également depuis un an, c'est qu'on est un vrai journal météo-climat. Donc, ce qui veut dire qu'on a une rédaction qui est avec nous, on a des rédacteurs en chef, on a des journalistes qui travaillent avec nous. Donc, on est vraiment avec des conférences de rédaction. On fait vraiment le point régulièrement sur les infos à mettre en valeur et à regrouper toutes les infos parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur non plus. Donc, on vérifie là où on vérifiait que 2 fois. Maintenant, on vérifie 10 fois les chiffres, s'ils sont bons et s'ils sont réactualisés. Parce que les données,
elles changent
très rapidement. Donc, il faut bien vérifier toutes les sources et faire attention à ce qu'on apporte aux téléspectateurs. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur non plus.
Non, puis là, vous parlez proximité avec les téléspectateurs. Vous avez utilisé le mot anxiogène au début en disant essayez. Comment vous faites justement pour essayer de ne pas effrayer les nombreux téléspectateurs qui vous regardent ? J'imagine tous les jours, on doit faire attention, peser ces mots, c'est ça ?
Bien sûr. Alors, on choisit bien nos mots, déjà. Et c'est vrai qu'il y a un an, quand on a mis ce journal météo-climat en place, on s'est axé essentiellement à trouver des solutions, à regarder justement dans nos régions ce qui fonctionne, ce qu'on peut mettre en valeur.
Vous apportez des solutions aussi, hein,
des solutions,
en plus des chiffres.
Au lieu d'alerter, bien sûr, le sujet est peut-être grave, mais on essaie de l'atténuer un petit peu.
Voilà. Vous parliez de cette forme d'interactivité avec les téléspectateurs, ouais. Donc ce QR, code qui apparaît en plus d'ailleurs à chaque émission. Dans quel but, qu'est-ce que ça vous a permis aussi? Est-ce qu'il y a des questions des téléspectateurs qui vous ont aussi permis de mieux angler parfois ce journal Météo-Climat?
On s'est rendu compte depuis un an qu'en fait, le téléspectateur est vraiment à la recherche d'informations et qu'il a vraiment des questions pointues.
Vous en recevez beaucoup d'ailleurs?
On en reçoit, en un an, on a dû recevoir plus de 4000 questions.
Ah ouais, d'accord.
Mais vraiment...
Vous en faites quoi, une par jour, c'est ça?
On essaie d'en faire une par jour.
Ouais, au moins une.
On en reçoit entre 15 et 20 par jour, donc très régulièrement, et vraiment des questions très pointues. Et c'est ça qui nous a confortés dans notre mise en place de ce QR code, c'est qu'on sent que le téléspectateur a besoin d'informations plus pointu, il sait beaucoup de choses. Il est très, très intelligent, ce téléspectateur. Il a besoin d'être informé, il a besoin peut-être d'être rassuré et d'être conseillé également dans son quotidien et en règle générale, que doit-il faire pour contrer ce réchauffement climatique à son niveau.
Alors, il n'y a pas que le fond qui a changé, il y a aussi la forme, ouais. Et c'est très important, notamment les adjectifs connotés pour parler de la météo qui n'existent plus, c'est-à-dire qu'on ne dit plus il va faire beau temps ou il va faire mauvais. Ça, c'était très important aussi de changer ça, Anaïs.
Alors, effectivement, Alexandre Caral, notre directeur de l'information,
il en a beaucoup parlé, Alexandre Caral.
C'est vrai que d'avoir un mois de janvier où on a 30 degrés ou 25 degrés sur le Pays Basque... la population comprend aussi qu'il y a quelque chose d'anormal, qu'il faut expliquer. On peut plus se réjouir d'avoir des températures trop élevées. Là, on vient encore de vivre une année record. La 2024 part également dans la même lancée. On peut plus se contenter de faire un constat. Oui, c'est vrai qu'une belle journée ensoleillée, ça fait du bien, mais on s'alarme de savoir qu'il a fait 25 degrés. Et quand il pleut, parce qu'on est en période de sécheresse depuis plusieurs années l'été, quand il pleut, oui, on se réjouit.
Mais oui, bien sûr.
La météo, c'est aussi une question d'incarnation. Est-ce que vous diriez que le présentateur ou la présentatrice est tout aussi important que le bulletin ?
Je pense qu'il y a une sorte de fidélité. Moi, par exemple, je vais parler à mon niveau parce que les gens sont contents de nous revoir. On est dans leur salon, il ne faut pas oublier. On arrive à un endroit où, à un moment donné où ils sont en train de préparer à manger ou en train de manger. Donc, on arrive vraiment à un horaire assez clé. Et ils nous ont vu grandir. Enfin, moi, maintenant, ça fait 13 ans que je suis à France Télé. Ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu enceinte, ils m'ont vu perdre mon ventre enceinte. Ils savent qu'on... Je pense qu'ils sont au courant que moi aussi, je partage ce que je dis tous les jours. Je le partage avec eux parce que j'ai la même sensibilité. Et je pense que la plupart des téléspectateurs de ce que je reçois, j'ai beaucoup de bienveillance, de gentillesse quand je les croise dans la rue. Vraiment, c'est un sujet qui est adorable, la météo, parce que c'est leur quotidien. J'ai pas choisi la politique pour d'autres raisons. Donc c'est un sujet qui est plaisant et qui apporte de la joie aux gens. J'ai toujours un sourire quand je suis interpellée, donc ça me touche beaucoup.
Et vous regardez les collègues un peu, comment ils font, comment ils travaillent. Il y a certains qui sont devenus des stars. Hein. Je ne parle pas d'Evelyne Delia ou Alain Gillot-Pétré à l'époque, ou une Chloé Nabédian. Mm-hmm. Aussi, il y a récemment Ange Noiret sur TF1 qui a beaucoup enflammé aussi les téléspectatrices. Ça vous parle, vos collègues? Vous les regardez aussi?
Alors, malheureusement, je ne les regarde pas.
Non.
Mais si je tombe dessus, je suis... Non, mais après, on a chacun notre tempérament, notre façon de faire. Et moi, je trouve que... Je ne juge pas, je les apprécie. On est tous une grande famille, hein, l'air de rien. Là, on se revoit de plus en plus dans les forums, justement, météo-climat. Et on fait partie d'une grande famille aussi. Donc, on partage. Et on a chacun nos tempéraments et nos façons de faire. Et c'est appréciable, en fait.
Donc, avant France Télé, vous aviez travaillé sur Eurosport, InfoSport Plus et Equidia. Était-ce un hasard ou est-ce que le sport vous intéresse également?
Alors, j'étais journaliste présentatrice et vous savez que journaliste, vous nous donnez n'importe quel sujet et puis on fait. C'est la façon dont on le fait, dont on l'anime. Et c'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressaient beaucoup. Et surtout, j'ai beaucoup travaillé. Par exemple, Equidia, j'avais peur du cheval. Donc c'est un peu contraignant, mais je m'y suis faite et puis j'ai présenté une émission qui s'appelait La Culturelle, donc vraiment le côté un peu plus culturel, je le voyais un peu moins, le cheval, donc ça allait.
Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous, parce que finalement on vous connaît peu, Anaïs, et pour le grand public, c'est un peu l'interview portrait ou Wikipédia. Est-ce que je pourrais avoir la date et le lieu de naissance, s'il vous plaît? ou est-ce que c'est secret?
Attendez, je ne m'en souviens plus.
Ah, vous souvenez
mais,
plus,
alors, mes enfants, je l'ai.
C'était il y a 30 ans, à peu près, c'est ça?
Oh, c'est voilà, mignon, merci.
Bah, c'est ça.
Alors, ma date de naissance, le 20 juillet. Ça, c'est pour le cadeau que je vais recevoir,
ouais,
c'est ça?
C'est ça, absolument.
Le 20 juillet 1961, et à Compiègne, dans l'Oise. Donc, je suis picarde.
Vous avez grandi
sud.
Là-bas?
Oui, jusqu'à mes 21 ans.
D'accord. Avec des frères et sœurs?
J'ai deux grands frères.
Et quel métier vous vouliez faire avant? Est-ce qu'il y a eu autre chose que... Moi, je vous ai aperçu dans un court-métrage avec Didier Bourdon, où vous jouiez oui. au poker en porte-jartel. Il y a une vingtaine d'années, hein, c'est ça, à peu près. Alors, et je me suis dit, tiens...
Vous savez quoi, j'ai... En fait, c'est un court-métrage où il y avait une scène de... En fait, je jouais la mère de l'actrice principale, ouais. et elle faisait une scène de cauchemar, et c'est vrai que là, il y a une période c'est où elle est, sa mère est croupière, et donc, du coup, c'est une scène un peu... bizarre,
onirique,
mais il n'y avait peu, rien peu, de... Et c'était avec Didier Bourdon,
ouais, les tapis.
Incroyable, donc c'est un très beau court-métrage par Isabelle Dzitsky. Mm. Et en fait, moi, j'étais à Compiègne, j'avais la chance, j'avais commencé par un BTS Action Commerciale. Et je travaillais à Énergie, la radio. Donc c'était vraiment ma première vocation. Et là, je découvre le travail de journaliste. Et là, je tombe amoureuse de ce travail de journalisme. Et donc c'est moi qui partais avec lui à chaque fois. Et pour le court-métrage, on m'a dit, on cherche des figurants. Donc, si tu veux assister, tu peux être en tant que figurante et en même temps, tu feras ton reportage.
Ton reportage, ouais.
Donc, c'est ce que j'ai fait.
Et vous avez fini de...
Et j'ai fini avec un rôle. Donc, parce que vous savez ce que c'est, hein, dans un
petit
court-métrage. Et j'étais très heureuse parce que c'est dans les petites villes comme ça, quand il se passe quelque chose, on est content d'y contribuer. D'être là, en plus de pouvoir faire un reportage pleinement bien fait, parce que du coup, j'ai joué dedans et puis je pouvais interviewer tous les acteurs dedans.
Et alors, comment s'est présentée la météo à vous?
Alors, comment s'est présentée la météo à moi? Alors, depuis
c'est quoi, 18 ans maintenant, hein, d'histoire d'amour avec la météo, un peu plus même?
J'ai 15 ans, donc ça fait... Non, ma première météo, je l'ai fait, j'avais 21 ans. Donc j'ai arrêté mon BTS Action Co, je l'ai eu, et donc du coup je me suis dit je veux pas faire ça, je veux être journaliste. Et donc j'ai commencé une école de journalisme et j'ai fait mon premier stage à Canal Plus Italie, et à l'époque Canal Plus Italie.
CNews, enfin c'était le nom de la chaîne avant CNews.
Voilà, exactement. Et il y avait un casting qui se faisait, je m'entendais bien avec la directrice de l'info, elle m'a dit écoute vas-y, va t'amuser, on va voir comment ça se passe, et j'ai fait le casting. Et Bernard Zécry à l'époque m'a dit très bien on la prend. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans...
iTélé
et Canal Plus à l'époque, parce que c'était les deux chaînes.
Ouais, faisiez les deux.
Et ça a été un stress énorme, et ça, c'est comme ça que ça a commencé, et ça remonte à 25 ans.
Vous avez gardé contact là-bas ou pas? Ça a beaucoup changé, non?
Ça a beaucoup changé, mais j'ai toujours beaucoup d'affection pour Claudie Jacquin, Bernard Zécry, j'oublie pas d'où je viens, et il y a beaucoup de têtes de iTélé de l'époque que je recroise, et c'est une petite famille, hein, l'air de rien. Donc moi, j'aime bien garder tous ces contacts tout au long de ma vie qui ont changé, qui ont avancé avec moi.
Et alors, côté famille, marié, vous avez des enfants?
Oui,
c'est ça.
Deux enfants.
Mmh. Deux enfants. Quel type de maman vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Alors évidemment, si on parle de l'écologie, de la météo, mais quel type de valeur? Est-ce que c'est important pour vous essayer de leur transmettre ces choses-là dès leur plus jeune âge?
Alors, le respect. Alors, j'ai vraiment
respect,
un truc de,
ça c'est bien.
Le respect
très bien.
Des personnes âgées, de différentes professions, des plus grands toujours. Et je veux qu'ils s'amusent. Et je suis une mère très protectrice. J'ai peur de tout, je suis angoissée. Alors, je découvre l'angoisse depuis que j'ai des enfants. J'avais jusque-là pas pris ça en compte. Et c'est vrai que j'ai peur qu'ils aient mal. Et j'ai peur de la planète qu'on va leur laisser. J'ai des petites... je suis un peu anxieuse à ce niveau-là parce qu'ils sont là et c'est à moi d'en prendre soin. Et j'essaie d'être la mère la plus parfaite, ça n'existe pas, la plus aimée et la plus aimante possible.
Et dans votre éducation, pour les petits gestes du quotidien, par exemple, est-ce que vous essayez de les sensibiliser
à... Oui. Alors moi, j'ai grandi comme ça. Ce qu'on disait, moi, petite, j'étais pauvre.
Ouais.
Donc, ce qui était écolo maintenant, était...
c'était la norme à l'époque, en fait.
Faire attention
on
à l'eau, on faisait attention à tout. Donc, ça, c'est clair que mes enfants le comprennent. Et ils savent qu'il faut le faire. Et puis, faire attention à ce qu'on mange et comment on mange. Et découvrir la nature au quotidien. Voilà, j'habite à la campagne, donc ça aide.
Merci Anaïs, on passe à notre dernière rubrique, au suivant. Nous recevions hier sur ce plateau Nelson Monfort, un commentateur évidemment du sport mythique sur France Télévisions qui sera au JO. Et alors il avait une question très précise à vous poser, Anaïs. Je vous propose de l'écouter et d'y répondre juste après.
Anaïs, la question est toute simple. Quel temps va-t-il faire, on peut 4 mois à l'avance, quel temps va-t-il faire le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture des JO et puis peut-être pour tout l'été, parce qu'au fond...
Je ne sais pas
si 4 mois à l'avance on peut le faire, mais Anaïs, avec sa compétence et son charme, peut peut-être nous répondre.
Alors, quel temps va-t-il faire le 26 juillet?
Je vois. Merci, Nelson, pour cette question. La prochaine fois, appelle-moi. Hein.
C'est impossible, 4 mois, on est d'accord, ou il y a des tendances quand même?
Les prévisions saisonnières, nous, on n'en fait pas. Mais ouais. C'est vrai que là, la tendance depuis ces dernières années, on le sait, c'est des canicules qui seront à répétition et de la sécheresse. Bon, dernièrement, on a eu beaucoup de précipitations, mais il y a certaines régions qui souffrent encore des précipitations en manque, notamment sur le Roussillon. Je pense qu'on va vivre des JO qui seront un peu compliqué, notamment pour les sportifs. D'ailleurs, on sera sur place, sur site, à France Télévisions, nous également, sur tous les...
De faire les conditions sous une grosse chaleur, c'est ça.
Donc, ou une grosse douceur, une grande douceur, mais ça risque d'être compliqué, notamment pour l'état des sportifs. Donc,
voilà. Nelson Montfort, vous couvrez bien, hein, en tout cas. Nous recevrons demain la comédienne Hélène Cesaret, qui succède à Claudia Tagbo dans Le Crime lui va si bien, sur France 2. Et si vous avez une question à lui poser, Anaïs, Hélène Cesaret vous écoute.
Alors, est-ce que vous me regardez dans le journal Météo-Climat? Est-ce que la météo, ça joue un peu sur votre morale quand vous faites vos tournages, Madame Colombo, j'ai envie de dire.
Merci Anaïs Beydemir d'être passée nous voir.
Merci.
Je rappelle que vous présentez le journal Météo Climat sur France Télévisions. On vous souhaite évidemment bonne continuation et puis bon JO. Hein. Portez-vous bien d'ici là et encore merci de votre fidélité.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.